jusqu'à 15h. Vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
Bon, est-ce qu'on impose trop de conditions de remise en liberté au Québec? Parce que là, il y a une étude qui a été réalisée par deux professeurs, l'une de l'Université de Montréal, l'autre de l'Université d'Ottawa. Ils ont épluché les statistiques de la Cour municipale de Montréal et ils arrivent à un constat. Franchement, moi, j'ai été très, très, très étonné. Les conditions de remise en liberté, ça devrait être l'exception. Or, c'est devenu la norme. Ça représenterait jusqu'à 95% des décisions recensées entre 2012 et 2014. En d'autres mots, dans 95% des cas devant la Cour municipale, c'est des cas de remise en liberté, de conditions de remise en liberté. Pour en discuter, l'une des auteurs de l'étude, Marie-Ève Sylvestre, qui est professeure au département de droit civil de l'Université d'Ottawa. Bonjour, Mme Sylvestre.
Bonjour, M. Drainville.
Est-ce qu'on a bien compris, dans 95% des décisions en 2002 et 2014 à la Cour municipale, c'est des causes de remise, de conditions de remise en liberté?
C'est-à-dire que dans 95% des décisions où des personnes sont libérées en attente de leur procès, donc ça exclut les personnes, par exemple, qui sont détenues, mais lorsque les personnes sont libérées par les tribunaux en attendant leur procès, 95% d'entre elles, effectivement, se voient imposer des conditions, alors que la loi exige qu'on libère les gens. La norme, c'est qu'on doit les libérer sans conditions.
OK, mais ça c'est... Ça, d'accord. C'est l'état du droit, me dites-vous. Moi, j'ai le goût de vous dire, OK, mais il doit bien y avoir une raison pour laquelle les juges imposent des conditions.
Bien, tout à fait. C'est-à-dire que, de leur perspective, ils vont vouloir encadrer les personnes qu'ils remettent en liberté, soit pour qu'elles se présentent au tribunal lors de leur procès ou encore pour éviter les risques de récidive. Le problème, c'est que la plupart de ces conditions-là de remise en liberté sont négociées dans l'urgence, alors qu'on a énormément de dossiers, sans prendre vraiment la mesure de ce que ça peut représenter pour les personnes qui sont libérées. Et souvent imposé dans le cas de personnes qui ont commis des infractions relativement mineures, comme des vols à l'étalage, des infractions d'entrave, des voies de fait simples, et souvent des bris même de conditions qu'ils s'étaient fait imposer auparavant et pour lesquelles ils se retrouvent à nouveau devant les tribunaux. Donc, dans cette espèce de cercle vicieux dans lequel on libère une personne, par exemple, une personne en situation d'itinérance ou une personne avec un problème d'usage d'alcool ou de drogue, avec une interdiction de se trouver dans un secteur au centre-ville où elle fréquente, par exemple, des banques alimentaires, des services de santé ou encore a un problème d'alcool, on lui interdit de consommer. Donc, elle revient devant les tribunaux et c'est cette personne à nouveau qu'on doit considérer de libérer ou pas.
OK, mais moi, je pensais que le 95% des causes, là, c'était des personnes, justement, qui revenaient devant les tribunaux parce qu'elles avaient manqué au respect de leurs conditions. C'est pas de ça dont il s'agit. Vous nous dites, dans 95% des cas, il y a des conditions qui sont imposées et vous contestez, le pouvoir, d'une certaine façon, des juges d'imposer ces conditions-là. Mais moi, je veux savoir, dans les causes qui sont entendues, quel est le pourcentage de personnes qui reviennent devant le tribunal parce qu'elles n'ont pas respecté les conditions? Le savez-vous, ça?
Bien, alors, ce qu'on sait, c'est qu'au Québec, présentement, il y a un tiers de toutes les causes criminelles qui sont entendues par les tribunaux pour adultes qui contiennent une infraction contre l'administration de la justice, dont un bris de conditions. Donc, un tiers de ces affaires-là entendues par les tribunaux chaque année contiennent une infraction contre l'administration de la justice. Et à la Cour municipale de Montréal en particulier, on sait que 66%, donc ça c'est deux tiers, de toutes les personnes qui ont accumulé plus de deux dossiers, donc une personne qui revient une deuxième fois, qui a deux dossiers, qui contient un bris de conditions. Donc ce qu'on sait, c'est que les personnes qui accumulent des dossiers à la Cour municipale le font non pas parce qu'elles commettent de nouvelles infractions substantives, par exemple un nouveau vol ou une nouvelle infraction en matière de prostitution, mais bien parce qu'elles brisent leurs conditions. Donc, on voit que les récidivistes, entre guillemets, deviennent des récidivistes institutionnels créés par le système de justice.
Bon, et là, dans le fond, ce que vous dites, c'est que ces récidivistes-là viennent engorger le système. Et c'est ce qui vous amène à dire, ben peut-être que l'imposition de conditions n'est pas la bonne façon de gérer ces dossiers-là. Mais je vais vous dire, Madame Sylvestre, Madame la professeure, quelqu'un qui a commis un voie de fait contre sa conjointe, si sa conjointe se sent encore menacée, je vois pas pourquoi le juge devrait pas imposer des conditions pour que cette personne-là se tienne loin de son ex. Même chose avec une entrée par infraction. Moi, je veux dire...
Oui, tout à fait. Non, vous avez tout à fait raison. Et lorsque la sécurité des victimes, du public ou des témoins est en jeu, c'est tout à fait justifié d'encadrer les personnes, soit en les détenant lorsqu'elles sont dangereuses, ou encore en les libérant avec des conditions. Le problème, c'est qu'on constate que dans le cas de personnes marginalisées qui ne sont pas violentes, qui ont commis des infractions mineures, encore une fois, des crimes contre la propriété ou encore des bris de conditions de libération pour des infractions liées soit à la prostitution, soit à l'usage de drogue, à la survie dans la rue, se voient imposer des conditions et souvent ne sont pas en mesure de les respecter alors qu'elles ne représentent pas de risque pour la société.
Alors, qu'est-ce que vous proposez, qu'on leur impose plus de conditions?
Ben, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a un grand nombre de ces infractions-là qui ne devraient pas être judiciarisées et pour lesquelles on devrait développer des alternatives au système de justice. Donc, c'est pas normal, à une époque où on parle d'une crise de délais judiciaires et d'engorgement des tribunaux, que nos tribunaux doivent gérer des infractions aussi mineures pour des personnes qui, essentiellement, ont des problèmes sociaux, des problèmes de santé. On parle d'usage de drogue, on parle de problèmes de pauvreté. Alors, ce n'est pas normal que les tribunaux soient aux prises avec la judiciarisation de ces problèmes sociaux.
OK. Alors, donnez-moi un exemple concret de ce qu'on pourrait faire autrement. Mettons quelqu'un qui a un problème de consommation, qui a été pris à voler pour se payer sa dope. On fait quoi avec lui ou avec elle?
Bien, présentement, à la Cour municipale de Montréal, il y a des programmes alternatifs de prise en charge. On les appelle les programmes sociaux. Donc, il y a des tribunaux spécialisés qui s'occupent des personnes et on peut leur suggérer en échange soit de s'engager dans certaines démarches de réinsertion, soit de gérer leurs problèmes de consommation. Donc, il y a un certain nombre d'alternatives qui existent déjà. Mais sinon, on peut imaginer que de recevoir des services de réduction des méfaits, d'encadrement par des organismes communautaires serait beaucoup plus efficace à long terme pour éviter la récidive que de mettre ces personnes-là sous condition, sous un ordre judiciaire. Un ordre judiciaire, ça veut dire que si tu le respectes pas, tu commets une autre infraction criminelle. Donc, tu as constamment cette épée de Damoclès, tandis qu'on pourrait déjudiciariser, sortir ces cas-là des tribunaux et faire en sorte que les personnes puissent entreprendre des démarches qui soient vraiment significatives et qui les aident à sortir des problèmes de consommation, comme vous dites, ou de pauvreté.
Donc, ça voudrait dire, par exemple, si tu es diagnostiqué avec un problème de santé mentale, tu as été pris à voler, plutôt que de subir un procès puis d'être condamné, tu serais obligé à suivre un programme de réinsertion au sein d'un organisme communautaire, mettons.
Ben, on pourrait dans un premier temps offrir des services aux gens. Donc souvent, malheureusement, les gens ont accès à des services de santé, des services sociaux via les tribunaux d'abord, alors qu'ils n'ont pas accès directement lorsqu'ils ont des problèmes.
D'accord.
Donc c'est souvent la pointe de l'iceberg lorsqu'une personne se fait arrêter. Alors que si on avait en amont fourni des services, on aurait pu penser que la solution serait venue autrement. Puis sinon, une fois que la personne est arrêtée, effectivement, on pourrait imaginer des renvois vers des organismes communautaires, vers toutes sortes de programmes qui sont mis en œuvre, soit pour encadrer des problèmes de santé mentale ou soit de la réduction des méfaits.
Des problèmes de consommation.
Pour s'assurer que c'est réaliste. Alors, vous interdisez à une personne qui est alcoolique de consommer de l'alcool, l'abstinence du jour au lendemain, c'est absolument dangereux, même impossible pour une personne qui souffre de problèmes d'alcoolisme. Donc, pourquoi pas la diriger vers des programmes de réduction des méfaits? Pourquoi pas trouver d'autres alternatives, d'autres façons pour s'assurer que cette personne-là, que ses besoins fondamentaux soient comblés?
D'accord.
Et qu'elle ne revienne pas devant les tribunaux. Et je pense qu'à la Cour municipale, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'ouverture à ce niveau-là. Et c'est plutôt ces initiatives-là qui doivent être encouragées davantage que le cycle de la judiciarisation.
Marie-Ève Sylvestre, professeure au département de droit civil de l'Université d'Ottawa. Merci.
Merci, M. Drainville. Au revoir.
Au revoir. Dans un instant, on va parler de cette annonce qui est toujours en cours, le prolongement du métro, de la ligne bleue du métro de Montréal. C'est notre argent, c'est nos stations de métro. Par contre, début de la construction en 2021, faut pas être trop pressé. Mais c'est un pas dans la bonne direction. On va faire le point là-dessus dans un instant.